Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à vous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson. Gros coup de gueule ce soir contre l'époque, qui est malsaine, nous dira-t-il. 19h20, le Club des Idées. Grand débat ce soir sur le coup de barre à gauche du FMI. Il faut accélérer chez les entreprises pour rembourser la dette Covid, dit le Fonds monétaire international. Hausse des impôts, prélèvement exceptionnel sur le patrimoine ou sur l'héritage. Est-ce réaliste? Faut-il mettre à contribution ceux qui ont profité de la crise pour sauver le système, et donc les plus modestes? Le débat est relancé, on en parlera avec nos invités. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Les mesures proposées vont nous permettre de cesser d'être sous-payés, mais ça n'interviendra qu'au mois d'octobre.
Davantage d'argent pour les soignants. Plus d'un demi-million d'infirmiers, d'aides-soignants, de personnels paramédicaux des hôpitaux publics vont bénéficier d'une revalorisation de leur salaire.
Une mesure importante prévue dans le Ségur de la santé, dont on a ce soir le détail.
La réouverture des terrasses, pas encore chez nous, mais de l'autre côté de la Manche, les Anglais apprécient. Vous le verrez, on sera à Londres.
Une pandémie qui a détruit 100 millions d'emplois dans le secteur du tourisme, nous dira Didier François.
Suez a fini par céder aux avances de Veolia. 8 mois de discussion et enfin un accord. Et puis Paris, sans son capitaine. Marquinhos forfait demain pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. PSG, Bayern Munich. En revanche, les Parisiens pourront compter sur Verratti.
La météo, Anissa Dadi, est-ce qu'il va faire aussi froid que la semaine dernière demain?
Alors, la réponse à cette question est non, Julien, mais les gelées matinales sont en effet de retour et elles vont se généraliser sur une grande partie du pays. Elles seront moins rigoureuses que la semaine dernière et puis dans l'après-midi, malgré le soleil bien présent, le froid se maintient.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On ne les applaudit plus comme lors du premier confinement. Pourtant, ils sont plus que jamais en première ligne. Les soignants méritaient bien un coup de pouce sur leur feuille de paye.
Oui, le comité du Ségur de la Santé était réuni cet après-midi autour du ministre de la Santé. À cette occasion, Olivier Véran a donc fait de nouvelles annonces concernant la rémunération du personnel soignant, Anne Le Gall.
Oui, après les 183 euros nets déjà accordés à tous les personnels des hôpitaux publics, Olivier Véran a annoncé tout à l'heure un coup de pouce supplémentaire pour revaloriser les carrières des professions paramédicales à l'hôpital. 500 000 personnes sont concernées, les infirmiers, aides-soignants, kinés, auxiliaires de puériculture, orthophonistes notamment. Avec cette nouvelle grille qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre, un infirmier généraliste débutant verra par exemple son salaire passer de 1 736 euros net par mois à 2 026 euros net mensuel et il finira sa carrière à presque 3 400 euros net. C'est 530 euros de plus qu'aujourd'hui. Au total, les revalorisations pour les différents métiers sont comprises entre 250 et 650 euros net de plus par mois, une somme qui inclut les 183 euros déjà distribués. Budget pour cette mesure, 740 millions d'euros par an, avec un objectif double, indique-t-on dans l'entourage d'Olivier Véran, continuer d'attirer les jeunes dans les métiers paramédicaux à l'hôpital et encourager les vocations jusqu'à la fin de leur vie professionnelle.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Thierry Amouroux est le porte-parole du syndicat national des professionnels hospitaliers. Pour lui, c'est une bonne nouvelle évidemment, mais surtout un rattrapage.
Avant la crise Covid, nous étions sous-payés, moins 20% sous le salaire infirmier européen. Et donc, les mesures proposées vont nous permettre de cesser d'être sous-payés, mais ça n'interviendra qu'au mois d'octobre, donc dans 6 mois, un an et demi après la première vague Covid. Certes, on va être un peu mieux payés, mais nous sommes toujours en sous-effectif. Lors de la première vague, nous étions à une infirmière pour 6 patients Covid. Or, là, sur cette vague, nous sommes plutôt à une infirmière pour 8 patients Covid. Parce que malheureusement, les plans d'économie sur l'hôpital continuent, avec des suppressions de lits et des suppressions de postes qui ont lieu depuis le premier déconfinement, le 11 mai dernier.
Le porte-parole du syndicat national des professionnels hospitaliers, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock. Vous savez que depuis ce matin, un nouvel outil permet de faciliter les dépistages, les autotests disponibles en pharmacie, même si beaucoup pour l'instant ne les ont pas encore reçus. Ça va permettre de se dépister chez soi avec un coton-tige, comme pour les antigéniques ou les PCR, sauf que celui-là est payant 6 euros le test.
Autre nouveauté du jour, Isabelle, les plus de 50 55 ans peuvent désormais se faire vacciner.
Sans comorbidité, ça veut dire tous ceux qui le souhaitent, sans condition, mais ce sera forcément avec AstraZeneca ou avec le nouveau vaccin de Janssen qui arrive dans les prochains jours et qui a la spécificité de ne nécessiter qu'une seule dose. La pandémie a atteint un point critique avec des infections qui croissent de manière exponentielle. C'est ce que dit aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. La semaine dernière, le nombre de cas a progressé de 9% dans le monde et les décès ont augmenté de 5%.
En Angleterre, en tout cas, il y a comme un parfum de liberté depuis ce matin.
Et oui, progressivement, nos voisins outre-Manche retrouvent un semblant de vie normale après des mois à la maison. L'Angleterre, pays le plus endeuillé d'Europe, mais aussi le plus vacciné. Le nombre de décès quotidiens est tombé à 50. 3000 nouveaux cas dépistés par jour. Résultat donc, réouverture des commerces non essentiels, des coiffeurs et surtout des pubs. Théo Manval, vous êtes à Londres. Alors c'est uniquement en terrasse pour l'instant, mais des terrasses qui sont prises d'assaut.
Ah oui, la bière coule à flot, ça a commencé à dès midi à l'ouverture des pubs ici.
Freedom, liberty.
Une bière au goût de liberté pour beaucoup, après 4 mois passés enfermés.
Ah, delicious. Délicieuse, ça faisait si longtemps. Une bonne Guinness bien crémeuse, je lui mets 9 sur 10. Ça fait 2 semaines que j'ai réservé, vous voyez, c'est complet. Ça valait le coup. J'espère juste qu'on ne va pas nous mettre dehors trop rapidement.
Et pourtant, c'est 2 heures par groupe, hein, aux tables des terrasses, pour que tout le monde ait droit à son breuvage. Ça va laisser le temps d'en écluser quelques-unes à ce groupe de retraités.
On a commandé 5 pains chacun. J'ai déjà eu mes 2 doses de vaccin, mais ça, ce sera mon rappel. Normalement, on se retrouvait ici 2-3 fois par semaine. Mais là, ça fait 6 mois qu'on ne s'était pas vus. Ça manquait.
Et certains ont carrément posé leur journée pour ça, comme ces jeunes femmes, dont la soirée promet aussi d'être arrosée. Pas de couvre-feu ici, mais une idée assez originale.
On a pris un café et une pinte de Guinness. Comme ça, ça s'équilibre.
Ça fait une boisson solide pour marquer le coup. Plus besoin de manger maintenant.
Voilà, on verra combien de temps elles tiendront comme ça. Probablement de pub en pub, les retrouvailles des Londoniens avec le houblon ne font que commencer.
Ça me promet en effet. Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
Et allez-y mollo Théo quand même avec la bière. Hein. Et si les Anglais recommencent à trinquer, ils ne peuvent pas encore faire de projet pour les mois à venir. Trop d'incertitudes. Nous non plus d'ailleurs. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, l'a rappelé. La circulation de l'épidémie est encore trop élevée en Europe pour que l'Union européenne puisse avoir la certitude de rouvrir ses frontières pour les vacances.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Didier, l'arrêt du tourisme depuis maintenant pratiquement 2 ans est une catastrophe, hein, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier.
Bah écoutez, oui, 100 millions d'emplois détruits dans le secteur du tourisme depuis le début de la pandémie, dont 62 millions rien que pour l'an passé. Conséquence d'une chute de 74% des voyages à l'étranger. C'est le chiffre terrible publié cette semaine par l'Office mondial du voyage et du tourisme et qui résume l'ampleur du problème, confirmé par l'Organisation de la coopération et du développement économique, hein, la très sérieuse OCDE, qui estime qu'à l'échelle internationale, ce sont 4 travailleurs sur 5 qui ont perdu leurs emplois dans les petites et moyennes entreprises qui vivaient jusqu'alors de cette activité. Les différentes mesures de confinement ou de quarantaine, les fermetures des hôtels, des restaurants, des musées, des salles de spectacle, l'effondrement du trafic aérien, tout cela a eu raison d'une multitude de petits boulots. Alors les artisans, les bagagistes, les plagistes, les loueurs de matelas, les masseurs, les guides ou les chauffeurs, en 2020, on estimait à 270 millions le nombre de personnes qui arrivaient à survivre, voire même à prospérer pour certains grâce aux activités induites par le tourisme de masse. C'est environ 10% de la richesse mondiale produite, donc loin d'être anecdotique.
Oui, ça ne touche pas seulement les pays pauvres.
Oui, alors évidemment, les pays pauvres sont dramatiquement touchés parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place de filet de protection au niveau social. Et certains sont même extrêmement dépendants. On prend l'exemple des Bahamas, c'est 52% des emplois qui sont liés au tourisme. On pense aussi à la Thaïlande ou au Kenya, mais pas seulement. Prenez la Croatie, 25%, un emploi sur 4. La Grèce et Malte, c'est respectivement 22 et 21%. On est pourtant là dans l'Union européenne. Et puis alors les États-Unis, on l'oublie souvent, mais c'est très touristique. 3,5 millions de postes supprimés avec un géant comme Walt Disney qui, en Floride, est obligé de distribuer des colis repas à ses anciens employés sur les sites de ces parcs d'attractions qui ont été fermés. Et puis alors en France, rappelons-le, hein, le tourisme, c'est 8,5% du produit intérieur brut. Donc une campagne de vaccination massive pour tenter de sauver les vacances d'été, ben, ce n'est pas simplement un enjeu de bien-être psychologique.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
L'actualité marquée également par cette fusillade à Paris, à la mi-journée dans le 16e arrondissement, devant l'hôpital Henri-Dunant. Un homme est mort, une femme a été très grièvement blessée. Il s'agit d'une agent de sécurité. Le tireur, dont on ignore les motivations, a pris la fuite en deux roues. La piste du règlement de compte semble, mais il faut rester prudent, semble privilégiée.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous évidemment, 19h08, dans quelques secondes, Veolia-Suez, ça y est, les deux géants sont enfin tombés d'accord.
Et puis le plus dur reste à faire pour Paris, confirmer l'exploit face au Bayern demain. Ah,
tout de suite. 19h10, c'est donc la conclusion d'un feuilleton à rebondissement et d'une âpre bataille. Veolia et Suez ont fini par s'entendre en vue d'un rapprochement.
Oui, on vous a souvent parlé sur Europe 1 des velléités de l'un de mettre la main sur l'autre. Les deux géants de la gestion de l'eau et des déchets n'ont pas toujours eu des mots très doux hein, l'un pour l'autre. Mais finalement, ça y est, Aurélien Fleurot, un accord a donc été trouvé.
Oui, et c'est finalement Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui a gagné ce bras de fer entamé il y a maintenant 7 mois. Une période pendant laquelle, c'est vrai, les deux directions se sont affrontées à coups de communiqués vengeurs et d'interviews, sur Europe 1 d'ailleurs, pour défendre leurs intérêts respectifs. Cette issue semblait inéluctable, mais il fallait trouver une solution qui permette à tout le monde de sortir par le haut. Et c'est globalement le cas avec ce rapprochement à venir qui va faire de Veolia un géant mondial de la transformation écologique et qui permettra à Suez de garder la main sur ses activités en France. Notamment, un nouveau Suez sera constitué. Chiffre d'affaires évalué à 7 milliards d'euros, soit tout de même 5 fois moins que celui du futur Veolia. Un accord à l'amiable donc, alors que la situation s'était dégradée après l'annonce d'une OPA hostile par Veolia en février dernier. Issue saluée par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui se réjouit que soit préservée la concurrence pour les clients et l'emploi pour les salariés. Les deux groupes se sont donnés jusqu'au 14 mai pour conclure cet accord de manière définitive.
Les précisions d'Aurélien Fleurot du service Écho d'Europe 1. Et puis le foot, la pression monte chez les supporters parisiens. C'est J-1 avant le quart de finale retour de Ligue des Champions, PSG, Bayern Munich.
Oui, on part au Parc des Princes cette fois. Des Parisiens qui l'ont emporté 3-2 à l'aller, mais qui devront faire demain sans leur capitaine Julien Froment. Et ça va être compliqué.
Oui, c'était un secret de polichinelle. Même l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino cet après-midi lors du point presse se montrait guère optimiste. Marquinhos, victime d'une lésion à l'adducteur, est donc forfait. On devrait connaître demain avec plus de précision son indisponibilité. Ce qui n'empêche pas le club d'être ambitieux. Le défenseur est certainement capitaine demain soir, Presnel Kimpembe.
On n'y pense pas forcément, mais voilà, c'est sûr que de pouvoir éliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand. Surtout que c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc voilà, beaucoup de respect pour eux, mais voilà, ce serait quand même très bien de notre part de pouvoir faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification.
Et Paris qui se remplume tout de même, retour de deux joueurs covidés, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, retour d'Abdou Diallo pardon, qui était malade. Les deux premiers débuteront sur le banc, Diallo lui pourrait être titulaire. Enfin, la sainte trinité du PSG, Navas dans les buts, Neymar et Kylian Mbappé devant seront là. En pleine forme, et ça, c'est peut-être la meilleure des nouvelles pour le Paris Saint-Germain.
Et vous y serez, vous aussi.
Et qu'est-ce qu'il dit, Julien Froment, sur le pronostic?
Comme la dernière fois, on verra. Je ne me mouille pas.
Donc demain, 20h, grande soirée au foot, évidemment. Vous serez aux commandes, aux avec manettes, Cyril avec Cyril de la Morinerie. Grande soirée au foot, dès 20h.
Bien, on y sera évidemment à l'écoute d'Europe 1. Merci Isabelle, à demain à partir de 18h. La météo, Anissa qui nous annonce du froid et encore du froid pour demain.
Oui, c'est vrai que la journée sera ensoleillée demain sur une grande partie du pays, mais on va avoir froid. Donc avec l'écharpe, vous mettrez vos lunettes de soleil. Prudence demain matin en Bourgogne, nous avons un risque de verglas en région parisienne et Basse-Normandie jusque sur les Ardennes. Là, les nuages bas forment quelques brouillards. Donc, si vous devez prendre la route tôt demain matin, soyez prudent. Dans l'après-midi, le soleil s'impose partout. Le ciel sera bien dégagé. Un petit risque d'averse sur les montagnes corses. Et puis, le Mistral et la Tramontane se lèvent dans le sud jusqu'à 80 km/h. À part cela, oui, tout va bien. Il fait beau. Les températures, elles sont très froides. Moins 5 à Montluçon, moins 4 à Beauvais et à Morteau dans le Doubs. Moins 3 à Vichy et Rouen. Moins 2 pour Amiens et Clermont-Ferrand. Moins 1 à Besançon. Sont un petit degré à Paris, 3 à Lyon et 8 à Bastia. Dans l'après-midi, nous aurons exactement les mêmes températures qu'aujourd'hui.
Oui. Vous dites ça va pas, mais à part ça, tout va bien. J'ai compris votre technique, hein, Anissa.
Non, il y a quand même du soleil
de
demain.
Rassurer et de garder la positive attitude. Merci en tout cas pour ce point, je blague. Merci Anissa, à demain 18h. Vous restez avec nous évidemment, 19h14. Dans quelques secondes, on se retrouve avec nos invités pour le grand débat du Club des Idées sur cette fameuse taxe Covid qui fait son chemin notamment du côté du FMI. D'abord, la carte blanche de l'écrivain comme chaque lundi, Philippe Besson.
La Caisse d'Épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'Épargne, vous être utile. Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est un homme en colère que j'accueille dans le studio d'Europe Soir. Bonsoir mon cher Philippe.
Bonsoir Julien.
Une fois n'est pas coutume, votre carte blanche prend ce soir la forme d'un édito coup de gueule. Vous voulez nous dire en quoi certains événements, tous survenus la semaine dernière, nous renseignent sur l'époque, et l'époque visiblement vous déplaît et vous désespère.
Oui Julien, car l'époque dans laquelle nous vivons, c'est celle où un people, extravagant et mythomane sur les bords, fanfaronnant en off dans un reportage télé, déclenche aussitôt, et sans qu'aucune preuve ne soit fournie alors, une prétendue affaire d'État. Où des divagations de fin de banquet lancent ni plus ni moins qu'une chasse à l'homme sous le hashtag nauséabond « on veut les noms ». Mais il faut dire que la délation est un sport ancien et que la vérité est devenue un concept flou. Notre époque est celle où des journalistes laissent entendre que des membres du gouvernement festoient le soir venu dans un palais abritant des agapes clandestines. Et on doit se contenter pour l'heure, une semaine après, d'un ministre des années 2000 ayant déjeuné avec un éditorialiste dans un appartement. Pas vraiment le Watergate. En attendant, on a fabriqué le soupçon qui flatte les populistes, déchaîne les complotistes, alimente le tous pourri. Notre époque est celle où des curés sans masque célèbrent une messe bondée durant plusieurs heures avec des personnes âgées, au mépris de toutes les règles sanitaires, mettant en danger la vie d'autrui, cette vie qu'ils placent pourtant au-dessus de tout quand ils pourfendent l'avortement. Et où des élus de la République, démagogues, s'affranchissent des degrés officiels régissant la vaccination dans le seul but de se faire de la pub. Notre époque est celle où 5 députés parviennent à eux seuls à bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale et refuser qu'on examine sérieusement une proposition de loi, celle sur la fin de vie, pourtant soutenue par l'écrasante majorité des Français, comme si au fond, on pouvait, sans vergogne, humilier la démocratie et comme si la souffrance des malades condamnés n'avait pas la moindre importance. Celle où une chroniqueuse, en mal de notoriété, peut suggérer à des gens en fin de vie, précisément, de sauter d'un pont. Et nous, on lui suggère plutôt de la fermer. Celle où une élue écologiste peut déclarer que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants comme s'il appartenait aux femmes et aux hommes politiques de décider de quoi les enfants ont le droit de rêver. Notre époque est celle où on peut traiter les policiers de nazis, ce qu'a fait le gilet jaune Jérôme Rodriguez, et être relaxé par la justice. Mais où on est condamné par la même justice quand on montre ses seins. C'est ce qui est arrivé au Femen qui manifestait il y a 2 ans sur le passage d'un convoi de Donald Trump à Paris. Celle où un comédien se grime en noir pour interpréter Othello, le mort de Shakespeare, et se faire traiter de raciste. Gérard Darmon a eu beau invoquer Laurence Olivier, Orson Welles ou Pierre Brasseur, qui tous ont interprété pareillement le rôle avant lui, rien n'y a fait, il a fini par supprimer le cliché. Celle enfin où un chroniqueur musical peut attaquer une chanteuse sur son physique et regretter le bon vieux temps où les filles étaient, paraît-il, sublimes. Fabien Lecoeuvre est allé jusqu'à dire de la chanteuse Oshi qu'elle était effrayante, ce qui lui a valu d'être écarté de cette antenne. Il n'a fini par s'excuser qu'en raison du tollé que ses propos ont provoqué. Il semblerait que les dinosaures bougent encore. Tout cela s'est produit en France la semaine dernière. Que nous réserve celle qui commence ? À l'allure où nous roulons vers le ravin, nous avons toutes les raisons de craindre le pire.
Mais cette époque est aussi celle où un écrivain populaire peut s'insurger de l'époque sur une radio de grande écoute. Et ça, c'est une grande liberté. On est très fiers de vous la donner. Merci mon cher Philippe Besson pour cette carte blanche en forme de coup de gueule.
C'était la carte blanche avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1. Julien Bûcher.
Allez, 19h18, dans un instant, le grand débat du Club des idées. On parlera de cette idée de fameuse taxe Covid qui fait son chemin, notamment, je le disais, du côté du Fonds monétaire international avec nos invités. A tout de suite. 19h20, alors ce soir dans le Club des idées, cette question. Faut-il augmenter les impôts des plus riches pour rembourser la dette Covid et atténuer les inégalités qui s'aggravent avec la crise? Et cette fois, ça n'est pas la France insoumise qu'il propose, mais le FMI. Vous savez, le Fonds monétaire international qui se prononce donc en faveur d'une taxe sur les revenus et d'une augmentation durable des impôts, y compris pour les entreprises. Alors comment expliquer ce changement de pied du FMI, gendarme et garant en quelque sorte du capitalisme mondial? On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Jean-Marc Daniel.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. On en parle également avec Henri Sterdignac. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et membre du collectif Économiste Atterré. Et on en parle également avec Philippe Aguillon, qui est avec nous par téléphone à distance, professeur au Collège de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et le sociologue Julien Damon, qu'on entendra tout à l'heure également sur ce point. Bonsoir Julien Damon.
Bonsoir.
Alors, peut-être actons, Jean-Marc Daniel, que c'est tout de même un changement de doctrine assez inédit. Cela fait des années que le FMI s'active à convaincre les États à réduire leurs dépenses et leur fiscalité au nom du sacro-saint libéralisme. Est-ce que ça vous surprend, cette prise de position ?
Non, ça ne me surprend pas totalement. D'abord parce que le FMI met en avant le fait qu'un des dangers, c'est quand même le gonflement de la dette publique et que pour éviter que ça ne devienne une menace sur la croissance future, il faut la rembourser.
Oui.
Et pour la rembourser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut baisser les dépenses et augmenter les impôts. Le deuxième élément, c'est que le FMI met en avant le creusement d'inégalités et d'inégalités multiples, c'est-à-dire oui. des inégalités de patrimoine, des inégalités de revenus, mais aussi des inégalités de destin. C'est-à-dire, il met en avant qu'il y a une génération qui aura souffert par la fermeture des universités. Il met en avant le fait qu'il y a des pays qui ont beaucoup plus souffert que d'autres de la maladie. Et donc, il fait une proposition qui est une proposition en fait assez simple. C'est-à-dire, face à ces inégalités, symboliquement,
oui.
il faut faire un geste. Alors, que ce soit le bon geste, je ne pense pas. Et je pense en outre que le FMI avait déjà fait ses propositions en 2008-2009 face au creusement de la... et qu'on a essayé de l'appliquer dans un certain nombre de pays, des ponctions brutales sur les revenus et sur les patrimoines, notamment à Chypre. Et je pense que le résultat n'a pas été suffisamment convaincant pour qu'on réitère l'expérience.
Alors, on a un peu de temps. On parlera évidemment jusqu'à 20h avec nos débatteurs et nos invités sur l'opportunité de ces taxes Covid, d'abord exceptionnelles et puis aussi dans la durée, parce qu'il y a deux leviers hein, dans ce que propose le FMI. Peut-être une réaction, Henri Sterdyniak, d'abord à cette prise de position qui, c'est vrai, a surpris quand même.
Oui, mais il faut bien voir que les bureaux au FMI, les bureaux qui sont généraux, sont généralement, disons, plus à gauche, plus progressistes que les gens qu'on envoie sur le terrain. Donc, ce n'est pas tout à fait une surprise. Hein. Il faut voir, comme l'a dit
Jean-Marc Daniel,
que la grande crainte du FMI, c'est plutôt les dettes qu'autre chose.
Oui.
Il faut voir aussi que l'économie mondiale était quand même toujours vérolée par la croissance des inégalités
oui.
et par la croissance des grandes entreprises multinationales. Et donc, ça crée un problème à l'échelle mondiale qui se traduit par le fait que la croissance des inégalités, les richesses accumulées par les firmes multinationales, et ben finalement, ça oblige à avoir des dettes publiques importantes, ça oblige à avoir des taux d'intérêt nuls, ça crée donc une instabilité financière et que la dette Covid risque d'aggraver. Et donc, de ce point de vue-là, il est assez normal que le FMI aille dans le bon sens.
Henri Sterdyniak, je reviens juste sur une petite parenthèse sur ce que vous avez dit au début. Vous êtes en train de me dire qu'il y a deux doctrines au sein du FMI. Il y a ceux qui vont sur place, comme ils ont été en Grèce pour réformer le pays et mobiliser les autorités pour qu'ils fassent des réformes plutôt libérales. Et puis, il y a ceux qui font les préconisations mondiales au bureau d'études. Il y en a à gauche,
sûr,
il y en a à droite.
Sûr.
C'est pas les mêmes, c'est ça ce que vous dites ?
C'est pas les mêmes. Au niveau du FMI à Washington, on a un point de vue macroéconomique qui évolue,
oui.
alors qu'au niveau des pays, souvent, on reste dans l'idée il faut imposer aux pays des cures d'austérité, même si effectivement,
oui.
Ça ne marche pas. On l'a bien vu avec la Grèce, ça n'a pas marché.
Bon, on va continuer d'en parler. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France. D'abord, êtes-vous d'accord pour acter le fait qu'il y a un certain nombre de secteurs, un certain nombre de grandes fortunes qui ont profité de cette crise. Parce que c'est ce que dit le FMI en sous-texte. Hein. Le
oui,
Fonds monétaire
fait,
international dit qu'il faut taxer ceux qui sont les grands gagnants de la crise. Alors, il y a les très riches, il y a les grandes fortunes, et puis il y a les entreprises. Un exemple, parmi tant d'autres, entre avril et juin 2020, alors que la moitié de l'humanité était confinée, Amazon a vu son chiffre d'affaires grimper de 40%. Est-ce que ce sont ces secteurs-là, il y a les laboratoires aussi pharmaceutiques, ce sont ces secteurs-là que vise le FMI avec cette préconisation ?
Écoutez, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup profité et il y a des entreprises qui échappent à l'impôt parce qu'elles sont multinationales et qu'elles jouent sur la localisation. Donc je pense que le FMI a raison de dire qu'il faut lutter contre ça.
Mmh.
Donc je pense que ça, c'est une chose très importante. Ensuite, je pense, moi, je vais juger FMI et l'administration Biden. L'administration Biden dit, elle, qu'il faut mettre un niveau minimum de taxation. Il ne faut pas être taxé à moins de 21% les profits des entreprises.
Oui.
Ça, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut, effectivement, et il faut lutter contre les paradis fiscaux. Et il faut sanctionner les pays De la même manière qu'on sanctionne les États qui servent qui sont des paradis de pollution, hein, qui disent venez polluer chez nous et après vous réexportez partout, il faut lutter contre les États voyous qui offrent des taux d'imposition aux entreprises qui sont ridicules pour attirer les entreprises et qui du coup imposent une concurrence fiscale déloyale.
Mais ça,
donc,
Philippe
Aguillon,
pardon,
il faut changer les règles du jeu.
La lutte contre les paradis fiscaux, c'est pas tout à fait nouveau. Tout le monde voudrait effectivement mettre à mal les paradis fiscaux.
Mais maintenant, c'est que les États-Unis veulent prendre la tête de ce mouvement et de dire voilà, ayons d'abord ils rétablissent le multilatéralisme que M. Trump avait interrompu et de dire ben voilà, de la même manière qu'on a des accords de Paris, il faudrait qu'on ait un accord pour se mettre d'accord que dans aucun pays, les profits des entreprises seront taxés à moins que 21%. Moi, je trouve que ça, c'est une démarche tout à fait louable, qu'il faut soutenir complètement.
Avant d'aller sur les solutions que chacun préconise, vous n'allez pas être d'accord les uns avec les autres. Peut-être, Julien Damon, vous êtes sociologue, spécialiste notamment des inégalités. Un mot sur la réalité des faits. Est-il vrai qu'il n'y a jamais eu autant de milliardaires et que leur richesse s'est accrue à 13 100 milliards de dollars? C'est le chiffre que j'ai trouvé, alors que dans le même temps, la crise a évidemment renforcé les difficultés pour les plus fragiles. Je vous pose la question parce que il y a une pétition qui a fait grand bruit en juillet dernier. 83 millionnaires américains appelés dans une grande tribune à payer plus d'impôts. Alors c'est surprenant, mais c'est ainsi. Nous avons de l'argent, beaucoup. Alors s'il vous plaît, taxez-nous. C'est le bon choix, c'est le seul choix. C'est ce qu'on dit à l'époque, c'est milliardaire. Étonnant.
Oui, alors moi ce que je voudrais dire, c'est que généralement, excusez-moi, à la française, on se concentre sur les milliardaires. Les milliardaires, il y en a à peu près 6 000, ça représente un millionième de l'humanité. Vous pouvez faire les calculs, c'est vérifié. Les millionnaires, c'est un autre sujet, donc c'est 83 qui ont pu signer cette missive, n'ont pas tort en disant taxez-nous, parce que ça rapporterait finalement beaucoup plus, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a à peu près 50 millions de millionnaires en patrimoine dans le monde. Maintenant, je crois qu'il faut cesser de faire de la richophobie et de montrer du doigt, d'une manière ou d'une autre, les milliardaires ou les millionnaires ou les 200 familles ou les 10 familles ou les 7000 familles à l'échelle internationale. Il y a un sujet de lutte contre les inégalités, certes, et il y a aussi un sujet tout à fait urgent qui est celui de retraiter de façon positive nos finances publiques. Et je crois que chacun doit pouvoir y contribuer. Donc plutôt que cibler les riches, je crois que chacun pourrait, même sur son patrimoine, être un tout petit peu taxé.
Bien, voilà pour ce premier tour de table. On marque une pause, on rentre dans le vif du débat dans quelques secondes. À tout de suite. Le club des idées, faut-il augmenter les impôts des plus riches pour rembourser la dette Covid? On en parle donc ce soir après cette proposition, cette suggestion du Fonds monétaire international. Et on est toujours évidemment avec Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Plusieurs options, Jean-Marc Daniel, sont sur la table dans cette perspective de taxe Covid. Hausse des impôts sur le revenu, hausse des impôts pour les sociétés, hausse des taxes aussi sur le patrimoine. Y a-t-il une bonne solution au milieu de tout ça pour vous?
Pour moi, la bonne solution, c'est pas de hausser les impôts, c'est plutôt de baisser les dépenses et de se poser la question de savoir comment on peut relancer la croissance.
Oui.
C'est-à-dire, il y a deux enjeux, c'est l'impact d'une politique dite d'austérité sur la croissance et les hausses d'impôts, ça contribue effectivement à freiner la croissance.
Mais simplement sur les hausses d'impôts, je voudrais aller au bout des choses avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de tout de même cohérent et juste, comme le dit le Fonds monétaire international, les grandes entreprises, les grandes fortunes qui ont été soutenues par les économies mondiales, les mesures d'accompagnement, notamment pour les entreprises. En France, on a été très généreux de ce point de vue-là, mais il n'y a pas que nous. Ça a été le cas aussi dans d'autres pays, et notamment dans les pays de l'OCDE. Est-ce que ça n'est pas un juste retour des choses?
Oui et non, parce que si vous regardez, par exemple, les Français qui viennent de rentrer, il y a 4 Français là, qui sont rentrés dans les, dans les millionnaires, enfin dans les...
Dans le classement des milliardaires de Forbes, et notamment le patron de Moderna.
Il y a le patron de Moderna. Quand même, le patron de Moderna, on lui doit beaucoup. Si on arrive à retrouver un état sanitaire correct, ce sera grâce à des gens comme le patron de Moderna.
Mais il nous doit beaucoup aussi, parce qu'on achète son vaccin, et qu'il s'est enrichi grâce aux achats du vaccin.
Oui, mais il s'est enrichi grâce à ses découvertes, à sa dynamique. C'est un parcours très intéressant, le patron de Moderna, parce que c'est quelqu'un qui est centralien, qui a donc une formation d'ingénieur de haut niveau en France, et qui est allé réussir aux États-Unis. Et donc, pourquoi il est allé réussir aux États-Unis? Parce qu'effectivement, en France, il était dans un carcan administratif et fiscal qui lui paraissait insupportable. Et donc, je crois qu'à vouloir multiplier les contraintes, notamment fiscales, on décourage des gens qui rendent quand même objectivement des services.
Oui.
Quant à l'attitude des Américains, moi, je suis persuadé que c'est un bal de faux cul.
Pourquoi
rappelle quand même que le président Biden était sénateur du Delaware avant d'être président des États-Unis. On parle de paradis fiscal. Parmi la liste des paradis fiscaux, il y a quand même de Delaware. Oui. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Le gouverneur de Californie, qui a baissé les salaires de 10% en Californie pour rétablir les comptes de son État, souligne le fait qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part d'un ancien sénateur de Delaware à mettre en avant les impôts après toute l'attitude qu'il a eue pendant toute sa carrière politique.
Mais quand vous voyez qu'une grande fortune comme Bill Gates, que Jeff Bezos, qui mardi, dans une déclaration publiée par son groupe sur Twitter, a assuré qu'il soutenait une hausse de l'impôt sur les sociétés, qu'il concernerait lui directement. Vous dites quoi ? C'est de la démagogie ?
Je pense que c'est de la démagogie.
C'est de la démagogie ?
S'ils veulent vraiment payer, personne ne les empêche de verser des fonds.
Je pense qu'il faut pas, il faut se réjouir éventuellement du tournant de Biden et pas forcément l'accuser d'hypocrisie. Je veux dire, il y a un tournant à l'échelle mondiale qu'il faut noter. Un tournant que, à la fois aux États-Unis, à la fois au FMI, qui peut débloquer une situation qui était bloquée et qui va bien sûr dans le bon sens. Hein. Il est totalement inacceptable que des grandes sociétés qui ont profité de la crise ne payent pas d'impôts. Donc il n'est pas totalement inacceptable que ces grandes sociétés deviennent plus riches, plus importantes que les États. C'est une menace sur la démocratie. Il n'est pas normal que la France ait un très grand nombre de milliardaires, dont un grand nombre n'ont pas fait de...
Henri Sterdignac, pour aller au bout des choses. D'abord,
on
peut se féliciter aussi que la France ait des talents et des milliardaires.
Mais justement, les talents et les milliardaires, ce n'est pas nécessairement la même chose. Parmi les milliardaires, il y en a quand même pas mal qui ont bénéficié d'héritages, qui ont de rapine, il faut le dire. Alors, qui ont détourné de l'argent public.
Qui a détourné de l'argent public ?
Vous savez très bien qu'un certain nombre de milliardaires sont devenus riches parce qu'ils ont bénéficié effectivement.
Si vous avez des noms, ça nous intéresse.
Quand on a des milliardaires chinois et des milliardaires russes, ces milliardaires chinois et ces milliardaires russes on ne peut pas dire qu'ils ont contribué quoi que ce soit au développement de l'économie russe
Philippe Aguillon est toujours avec nous, vous vouliez réagir,
Moderna,
Philippe
Aguillon.
Je voudrais dire un mot simplement.
Allez-y.
Je veux dire simplement deux choses. Tout d'abord, je voudrais dire la chose suivante. Cette crise du Covid a révélé la faillite du modèle social américain. Plus de 500 000 morts, beaucoup de gens sont tombés en pauvreté, en perdant leur travail, ils ont perdu l'assurance santé. Donc le modèle social américain ne fonctionne pas. Ils ont besoin d'un vrai État-providence, comme il y a en Europe, comme il y a dans nos pays. Donc ils ont raison, et les impôts étaient trop bas. Donc partant de là d'où ils sont, ils ont raison. Attendez.
Je veux réagir aussi, parce que les Français qui nous écoutent ne sont peut-être pas au courant. Le taux d'imposition effectif aux États-Unis n'est pas si faible. 39,5% en moyenne pour les entreprises.
Il était plus faible que chez nous. Par exemple, l'impôt sur les sociétés était beaucoup plus faible que chez nous. Donc étant donné d'où ils partent, ils avaient raison, et étant donné qu'ils ne financent pas l'État-providence chez eux, ils doivent faire un effort pour reconstruire leur modèle social. Oui. Nous, en France, on a un système quand même beaucoup plus protecteur, et notre niveau d'imposition est parmi les plus élevés au monde.
Oui.
Donc nous n'avons pas les mêmes contraintes qu'eux. Vous comprenez ? Tout dépend du point de départ. Il faut une convergence fiscale. Mais eux, ils étaient en bas par rapport à nous. Donc ils devaient augmenter l'impôt sur les sociétés, ils l'augmentent maintenant, ils le mettent à 28. Donc ils nous rattrapent, mais nous on est déjà très élevés, et on a l'impôt sur les sociétés à 26,5, plus les impôts de production qu'eux n'ont pas.
Oui.
Donc vous comprenez, tout dépend du point de départ, on n'est pas tous au même point de départ. Donc ce que les États-Unis doivent faire, la France n'est pas dans la même situation, parce que nous notre problème n'est pas que les impôts sont trop bas, nous les impôts sont déjà parmi les plus élevés. Donc, nous, c'est d'autres leviers maintenant qu'il faut activer également. Bon. Les Américains, ils avaient un modèle social en faillite et des impôts trop bas.
Vous êtes
donc,
en train
on
n'est
pas
dire.
Dans la même situation,
Bien.
Les Américains.
On vous entend. Vous êtes en train de me dire, Philippe Aguillon, que vous êtes favorable à une hausse de la fiscalité pour les entreprises et les ménages américains, soit, mais pas chez nous en France, c'est ça ?
Exactement. En France, je pense que ce n'est pas le levier qu'il faut privilégier. En France, il faut, par exemple, je suis pour un revenu jeune d'insertion à la danoise.
Je pense qu'il faut des mesures de ce genre.
Alors,
de mobilité
c'est pas ça
sociale,
qui va permettre de payer la taxe Covid.
Et c'est des mesures beaucoup plus... ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les impôts.
Oui.
Je dis simplement que nous avons déjà un niveau de fiscalité très élevé. On est un des pays qui taxe le plus le capital et où l'impôt sur les sociétés plus impôt de production est parmi les plus élevés au monde. Je ne dis pas qu'il faut... Je ne crois pas qu'il faille les augmenter chez nous. Mais par contre, il faut utiliser d'autres leviers de mobilité sociale, comme ce revenu jeune d'insertion, par exemple. Bien. Je pense qu'il serait une grande mesure sociale du quinquennat. Mais alors, on peut peut-être y revenir tout à l'heure.
Oui, grande mesure sociale, mais ce n'est pas ça qui va rembourser la dette Covid, évidemment, mais puisque c'est notre sujet de ce soir.
Vous partez quand même du postulat qu'il faut rembourser la dette Covid. Je n'en suis pas sûr.
La dette, c'est quand même une dette qui est
souscrite à des taux... des taux d'intérêt négatifs, c'est une dette qui ne pose pas problème. Je ne pense pas que la priorité soit de rembourser la dette Covid. Et comme l'a dit Philippe, entre rembourser
la dette Covid... Il ne s'agit pas de la rembourser dans son intégralité.
Et faire quelque chose pour les jeunes, il n'y a pas le choix.
Il s'agit d'avoir une dette qui est soutenable pour les générations
On va monétiser
la dette Covid. La dette Covid, la Banque Centrale Européenne va la monétiser. Il y a deux choses. Il y a la dette Covid qu'on peut monétiser et il y a la dette structurelle. Et celle-là, c'est essentiellement, comme le disait très bien Jean-Marc Daniel, par la croissance. Il faut une politique de croissance. Oui. Et un des leviers de croissance, c'est les jeunes. Et d'ailleurs, ça va être très important de revenir sur Maastricht parce qu'il va falloir distinguer dans les dépenses des dépenses de croissance et des dépenses qui ne sont pas des dépenses de croissance. Investir dans les jeunes, c'est une dépense de croissance. Bien. Et donc, on ne peut pas la traiter de la même manière qu'une dépense qui n'est pas une croissance. Parce que quand on augmente le taux de croissance, on augmente le niveau de dette soutenable.
Alors,
parce qu'il dépend du différentiel entre le taux de croissance et le taux d'intérêt.
Merci Philippe Aguillon.
Il faut raisonner autrement.
On va laisser parler aussi les autres invités, si vous le voulez bien. Merci en tout cas pour cette intervention. On a compris votre propos. Jean-Marc Daniel, je vais revenir sur ce que disait Philippe Aguillon. La croissance pour rembourser une partie de la dette, ou en tout cas permettre la soutenabilité de cette fameuse dette Covid, ça sera suffisant parce que moi, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, j'ai jamais vu une dette remboursée par de la croissance. Jamais.
L'essentiel de la dette, elle peut se rembourser effectivement soit par la croissance, soit par l'inflation.
Oui.
Et donc, quand même, historiquement, le XXe siècle, qui avait hérité et qui avait créé énormément de dettes du fait des guerres, a été un siècle d'inflation. Je rappelle quand même qu'entre 1913 et 2013, les prix en France ont été multipliés par 2530. Et donc, tout ça a nettoyé effectivement la dette. C'est-à-dire, la dette, elle était en valeur nominale, elle restait la même, et puis les impôts, ils augmentaient du fait qu'ils étaient indexés sur l'inflation.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire d'inflation.
Voilà.
La croissance va être relativement modérée. La limite...
Une croissance au-dessus de 2,5, on n'a pas vu ça depuis...
Relativement modérée et donc il va falloir s'habituer à vivre avec une dette relativement importante qui va rester soutenable parce que les taux d'intérêt en même temps seront extrêmement faibles.
On marque une nouvelle pause, je suis navré, on a encore plein de choses à dire. 18h41, on se retrouve dans un instant avec nos invités, à tout de suite. 19h43, la suite du Club des Idées. Ce soir, débat, faut-il augmenter les impôts des plus riches, comme le propose notamment dans sa dernière recommandation le Fonds monétaire international, cette fameuse taxe Covid. Alors, vous semblez y être opposé, Jean-Marc Daniel. Je voudrais vous soumettre quand même ce qu'a fait l'Argentine, puisque l'Argentine a adopté début décembre l'impôt solidaire et extraordinaire sur les grandes fortunes, qui est entré en vigueur. La loi instaure un impôt unique et progressif qui s'appliquera aux revenus supérieurs à 200 millions de pesos. Alors évidemment, l'Argentine n'est pas les États-Unis, l'Argentine n'est pas la France, mais quand même. Et puis si on veut faire un peu d'histoire, je sais que vous êtes aussi un économiste de l'histoire, il y a eu le soli, l'impôt de la réunification allemande, volonté d'Helmut Kohl, qui a créé un impôt de solidarité provisoire pour financer la réunification et la mise à niveau des Länder de l'Est moins développés au moment où les deux Allemagnes se sont réunifiées. Donc ça a existé dans l'histoire. Ça existe aujourd'hui en Argentine.
Oui, ça a existé, et même en France. Moi, je cite assez souvent l'impôt sécheresse qui avait été mis en place par Raymond Barre, qui était en fait un emprunt forcé. Mais un emprunt forcé, ça revenait à un impôt qui a été remboursé, effectivement, en 81 par le gouvernement de Pierre Mauroy. Mais on avait mis ça en place. Donc je pense effectivement qu'il faut, pour redresser la situation, il faut faire un effort. Mais je pense que ce n'est pas en taxant les entreprises, comme l'a dit Philippe Aguillon, la source de richesse future, la croissance, c'est la jeunesse, mais la jeunesse dans des entreprises.
Parce qu'on est plutôt dans le mouvement inverse aujourd'hui. Bruno Le Maire s'est engagé à l'objectif de baisse en 2022 de l'impôt sur les sociétés.
Absolument, mais Bruno Le Maire, et comme l'a dit Philippe Aguillon, en France, vous avez un impôt sur les sociétés qui est relativement élevé, et puis il y a un rapport...
L'impôt de production.
Et ces impôts de production qui frappent à hauteur...
Qui a baissé, mais qui est encore plus important
voilà,
que le voisin allemand.
On a enlevé 10 milliards, mais il y a encore près de 70 milliards à enlever. Il a enlevé.
On va partir le débat sur l'impôt de production.
Il ne faut pas raconter, reprendre bêtement ce que dit le patronat. Il n'y a pas 70 milliards d'impôts de production. Il y a des choses parmi lesquelles.
C'est le centre d'analyse économique.
C'est le patronat.
On laisse finir Jean-Marc Daniel.
Le centre d'analyse économique, c'est des économistes.
Parmi ces 70 milliards, il y a des taxes sur les salaires, des choses qui font partie de la protection sociale qui ne sont pas des impôts sur la production. Et par ailleurs. Il faut rappeler quand même que lorsqu'une entreprise s'installe, les collectivités locales ont des frais et qu'il n'est pas absurde que les entreprises collaborent un peu.
Mais quand même, Maurice Tardignac, alors, je vous pose la question. 33% aujourd'hui, c'est le taux le plus important sur l'impôt des sociétés. Quand on sait qu'on a des problèmes de compétitivité, alourdir encore un peu plus l'impôt sur les sociétés avec cette taxe Covid exceptionnelle ou pérenne, ça pénalise les entreprises françaises quand même au bout du bout.
D'abord, il n'est pas nécessairement question aujourd'hui d'augmenter l'impôt sur la société en France.
Oui.
La grande priorité aujourd'hui, comme l'a dit Biden, comme le dit le FMI et l'OCDE, c'est de faire payer les grandes entreprises multinationales à des taux raisonnables
de
l'ordre de 25.
Les GAFA,
l'ensemble des sociétés multinationales doivent payer de l'ordre de 21 ou 25%, et on sait que ça peut nous rapporter une douzaine de milliards, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et par ailleurs, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la priorité soit effectivement d'augmenter les impôts sur la masse de la population pour rembourser la dette Covid. La priorité, c'est quand même de dire aux gens dépenser, parce qu'on a besoin de consommation en 2022, en 2023, pour soutenir la croissance. Et ensuite, naturellement, on se posera la question de se battre pour l'harmonisation fiscale, qui est quand même la grande question en Europe, d'éradiquer tous les paradis fiscaux que nous avons.
Alors, réponse sur ce point, Philippe Aguillon. L'harmonisation fiscale mondiale, qui est une idée débattue en ce moment aux États-Unis par Joe Biden, sur l'idée de cette taxation. Et là, c'est vrai qu'il y a un sujet. Les GAFAM passent à côté des taxations, que ce soit en Europe ou chez nous
en France.
Absolument.
Alors là, je suis totalement d'accord. Il faut qu'on puisse... De même manière, je mets sur le même plan la pollution et les paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des endroits qui se transforment en paradis fiscaux et qui permettent aux multinationales de faire de l'arbitrage.
Oui.
Donc je pense que là-dessus, Biden a totalement raison. Et donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas qu'il puisse échapper à l'impôt en faisant de l'arbitrage, en allant en disant l'Irlande qui taxe à 12%. C'est pas possible. Il faut que ça change.
Oui.
Donc ça, je crois que c'est là-dessus qu'il faut se bagarrer, voyez.
Bien.
Je crois qu'il faut savoir mener les bonnes batailles, voyez. Donc,
je pense que
c'est la bonne bataille.
Les Irlandais mettent en avant le fait que leurs comptes publics sont équilibrés. Ils n'ont pas besoin d'augmenter les impôts. Ils disent, on ne voit pas pourquoi on augmenterait les impôts. Nos comptes publics sont équilibrés. Parce que nous, on a une gestion de nos comptes publics qui est une gestion sérieuse. Les pays qui réclament des hausses d'impôts devraient commencer par faire comme nous, c'est-à-dire serrer sur la dépense.
Ce que tu viens de dire est totalement hors sujet, bien sûr. L'Irlande qui chippe l'assiette fiscale des autres n'est pas un modèle. Le Luxembourg n'est pas un modèle. Le modèle, ce n'est pas des pays qui s'enrichissent au détriment des pays partenaires.
Bien, mais comment on force ses partenaires, et notamment l'Irlande, à augmenter son assiette fiscale, étant donné que ça leur profite ?
C'est la guerre, quoi. Il faut être clair.
C'est la guerre.
Non, mais il faut être clair que s'il y a un accord entre les États-Unis, la France, l'Allemagne, et un grand nombre de pays pour dire les entreprises doivent être taxées au minimum à 21 ou 25%, et sinon, elles n'auront pas le droit de travailler chez nous, les entreprises commenceront à réfléchir. Et de même, il faut prendre des mesures de représailles, comme on l'a dit depuis longtemps, contre l'Irlande, contre les Pays-Bas, en leur disant il faut absolument que vous supprimiez telle ou telle disposition qui sert uniquement à l'évasion fiscale.
Bien, si la boucle est bouclée à la fin de la discussion, Jean-Marc Daniel, si je comprends bien vos propos, on est en train de dire que la recommandation de l'FMI ne vise pas tant la France que les États-Unis, que l'Angleterre, que l'Irlande par exemple, cette notion de taxer un peu plus les entreprises et les grandes fortunes.
Oui, oui, ce que met en avant effectivement le FMI, c'est ce sentiment de creusement d'inégalités, de menaces qu'il y a dans ce creusement des inégalités, et notamment par le décrochage d'un certain nombre de zones géographiques, l'Europe en partie, et surtout les pays du Sud. C'est-à-dire que l'Asie s'est assez bien sortie de la récession et de la crise liée à la Covid. En revanche, l'Afrique, l'Inde sont dans une situation assez dramatique. Mais ce que dit bien le FMI, c'est que un des enjeux aussi, c'est que par le remboursement de la dette, on puisse retrouver des politiques monétaires qui soient plus en conformité avec les traditions des politiques monétaires, c'est-à-dire des niveaux de taux d'intérêt qui soient plus proches des taux de croissance moyens que ce que l'on connaît à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a des politiques monétaires qui sont des politiques monétaires qui, depuis 2008-2009, se voulaient exceptionnelles et qui sont en train de devenir la norme avec des conséquences que le FMI juge comme extrêmement dommageables pour l'activité future.
Bien. En somme, le FMI, Philippe Aguillon, revient à son dogme historique. Remboursons la dette.
Oui, non, enfin, je crois que le FMI a évolué, en fait. Je pense que le FMI prend en compte d'abord la croissance davantage et prend en compte les aspects d'équité. Non, je pense que ça, c'est une bonne chose. Donc, le FMI évolue. Donc, ça, je crois que c'est très louable. Et puis, je trouve que c'est bien parce que ça va dans le sens de ce que fait l'administration Biden. Mais ça ne veut pas dire qu'en France, comme le disaient très justement tous mes amis présents aujourd'hui, ça ne veut pas dire que la France doive augmenter ses impôts. Parce que nous sommes déjà, de parmi les pays qui imposons le plus. Et il faut qu'on joue sur d'autres leviers pour la croissance et pour la mobilité sociale.
Oui.
Et surtout, on rétablit le multilatéralisme. Ça, c'est une chose formidable qui est en train de se passer entre Biden et le FMI. C'est un formidable retour du multilatéralisme après des années Trump qui tournait le dos au multilatéralisme. Donc, je crois que c'est un développement quand même très, très positif. Bien.
C'est un peu la fin du néolibéralisme, ce qui est quand même pas mal. Il va quand même y avoir, avec Biden, il y a quand même l'idée que maintenant, il faut des politiques beaucoup plus actives. Il ne faut pas se satisfaire de taux de chômage qui laissent beaucoup de gens dans la pauvreté. Et ça aussi, c'est un message important à l'échelle mondiale.
Merci Henri Sterdignac, merci Philippe Aguillon, merci Jean-Marc Daniel d'avoir participé à ce débat. Il y aura encore mille choses à dire, évidemment, mais on aura l'occasion d'en reparler. La question de la dette, très importante. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
19h52, dans quelques secondes, la suite du Club des Idées avec les archives d'Europe Soir, quand le passé éclaire l'actu. Et ce soir, on vous parlera de l'exploit du soviétique Gagarine. C'était il y a 50 ans, le premier homme à être allé dans l'espace. A tout de suite. 19h55, les archives d'Europe Soir. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Europe 1.
Bonsoir, Rémi Botsaron.
Bonsoir,
Julien. Alors, j'ai dit une petite bêtise. C'était pas il y a 50 ans. C'était il y a 60 ans, évidemment. 12 avril 1961, le jour où Youri Gagarin devenait le premier homme à voyager dans l'espace.
Et ce jour-là, il est un peu plus de 9h, heure de Moscou, quand Youri Gagarin quitte la Terre depuis le cosmodrome de Baïkonour, construit dans le plus grand secret au cœur des plaines kazakhs. Cet ancien ouvrier, fondeur, devenu pilote de chasse, a glissé son être 67 dans une étroite capsule propulsée par un missile nucléaire modifié. Après quelques minutes, ses premiers mots résonnent. Ils sont tout simples. « C'est parti », dit-il. La suite est sur Europe.
Et maintenant, écoutez Youri Gagarin, il parle à la Terre depuis le Vostok. Écoutez sa voix. Je vois la Terre, la visibilité est bonne, je vous entends parfaitement, le vol se poursuit normalement. Je vois la Terre, on peut tout voir, certains points du ciel sont couverts de cumulus.
Et cette voix, on l'entend donc sur Europe 1, comme partout dans le monde, pour l'URSS, c'est la voix du triomphe.
Oui, car c'est évidemment une immense victoire pour elle. Pour l'Union soviétique face aux États-Unis en pleine guerre froide.
Une victoire qui s'achève dans un champ de pommes de terre pour lui. Après ses 108 minutes de vol autour de la Terre, éjecté de sa capsule, il tombe nez à nez avec une babouchka et doit la rassurer. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il, je suis soviétique comme vous, je reviens de l'espace. » À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Moscou, à l'annonce de son retour, la foule envahit les rues et scande son nom. On entend ce nom scandé par la foule à Moscou, donc, où Gagarin arrive le lendemain. Quand il sort de l'avion à l'aéroport, la foule est encore là, et Europe 1 aussi.
Et nous voici, Youri Gagarin. Vous entendez les acclamations. Il passe devant la gare de l'honneur et monte à la tribune centrale.
Gagarin qui s'adresse à la foule, salue ses camarades, dit son bonheur d'être de retour, puis il entre dans la salle de conférence où il est encore une fois acclamé.
Tous les assistants qui sont présents dans cette salle se lèvent, l'applaudissent longuement. Yuri Gagarin lui-même applaudit à la façon russe. Il est en uniforme de commandant de l'aviation.
Commence alors la conférence de presse et Gagarin, on le comprend tout de suite, c'est un outil de propagande. On comprend l'outil de propagande qu'il va devenir, ce jeune homme toujours souriant.
Gagarin, après avoir rappelé sa vie, après avoir rendu hommage, comme l'ont fait tous les orateurs, au Parti communiste, aux savants communistes, en vient à parler de son vol. La conférence de presse de l'homme de l'espace s'est prolongée ainsi, je vous l'ai dit, pendant plus de 2 heures. Que nous ont appris ces 2 heures ? À vrai dire, pas grand-chose que l'on ne sut déjà.
Oui, parce que finalement, plutôt que les retombées scientifiques, c'est l'image de Gagarin qui va être mise en avant.
Et d'ailleurs, il paradera comme ça un peu partout dans le monde, au service de l'URSS, avant de disparaître brutalement à 34 ans, tué dans le crash d'un avion qu'il pilotait. Un accident jamais vraiment expliqué. Le rapport d'enquête n'a jamais été dévoilé. Certains en Russie affirment que c'est le Kremlin qui l'a éliminé car il devenait trop populaire. Quoi qu'il en soit, la légende Gagarin ne s'est jamais éteinte, y compris chez les cosmonautes du monde entier qui tous reproduisent encore aujourd'hui tous ces rituels avant de décoller de Baïkonour.
Génial comme anecdote. Merci beaucoup Rémi Botsaron pour ce récit et cette histoire.
Europe 1, Julien Bugier.
Dans quelques secondes, Julien Pierce pour le rappel de l'info et Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Alors quel est le programme ce soir ?
Alors ce soir, c'est une découverte, un album qui était sorti au mois de février. On n'avait jamais eu le temps de vous en parler. C'est ce soir que nous vous parlons de ce duo entre Brisa Rocher, chanteuse californienne installée en France, et Fred Fortuny. Écoutez comme c'est joli. Across miles, miles and miles of years and tears. C'est très joli, hein, on dirait que ça a été composé par Carole King dans les années 70, mais non, c'est bien 2021. Et c'est le duo, donc Brisa Rocher, Fred Fortuny, l'album Freeze Where You Are. On en parle ce soir dans Musique.
Génial, à tout de suite, Émilie.
Merci beaucoup, Julien.
Merci de votre fidélité, on se retrouve nous demain, 18h évidemment. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, à demain.
Europe Soir, le 18-20.